Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux. Inas Al-Saka, dramaturge et comédienne. Iba Abou Nada, écrivaine. Eba Zagout, artiste plasticienne, toutes trois palestiniennes et mortes, tuées par l'armée israélienne après le 7 octobre. Mais aussi Ayam Abbas, comédienne. Jumana Mana, artiste plasticienne. Lina Swalem, actrice et réalisatrice, toutes trois palestiniennes et bien vivantes. Bonjour à vous toutes et à vous tous, phénix de la justice qui avait la Palestine en vue et la voulait en vie. Bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, nous allons parler du festival Palestine en vue, une Palestine rendue visible, un horizon espéré et partagé le temps d'une semaine et de 5 films qui disent la culture palestinienne vivante, un festival à la croisée du politique, de la culture et de la convivialité qui aura lieu à Aubenas du 3 au 7 avril pour sa 9e édition. Un festival beau et nécessaire, avec sans doute question bien sûr sur la situation actuelle que nous allons, j'espère, aussi aborder dans cette émission. Et pour en parler avec nous, Jean-Claude Perron, porte-parole de l'association française Palestine Solidarité pour l'Ardèche méridionale. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Et avec nous également Valou, que vous connaissez sans doute ici, si vous écoutez Fréquence 7, qui est animatrice, qui réalise des émissions, notamment la playlist de mon pote, mais aussi Billets d'Afrique. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et tu es là parce que tu connais aussi la situation palestinienne, tu as vécu toi-même en Palestine.
Oui. J'y ai traîné mes guêtres. En tout cas, il y a des trucs à raconter, toujours.
Toujours. Et merci d'être là avec nous. Mais avant, un petit tour des événements à voir, à faire, à vivre aujourd'hui, demain et les autres jours aussi. Et si l'on y prête attention, tout peut prendre sens avec notre sujet du jour. Ce soir, à 19h30, au domaine Les Amoureuses de Bourg-Saint-Andéol, Mentir lo minimo. Alors le titre est transparent. C'est une étape de création proposée par la Cascade, pôle national des arts du cirque, et qui accueille pas mal de compagnies en résidence. Et c'est toujours passionnant d'assister à la création en train de se faire et de pouvoir en plus en discuter avec les artistes. Et ce soir donc, c'est la compagnie Alta Gamma qui propose un spectacle de cirque minimaliste à partir de 8 ans. Le thème, c'est votre présence, la présence des circassiens, et le sujet, le corps. Alors, c'est le corps dans lequel on vit, est-ce qu'on est confortable avec? Enfin, plein de questions, mais via le corps. C'est gratuit, c'est ce soir à 19h30 au domaine des Amoureuses, en hors les murs donc, pour la Cascade. Et en parlant de corps et de processus créatif, parlons de cartographie sensible. Alors, cartographie sensible, c'est un super projet complètement fou, manigancé par la Baume en musique sur les territoires Pays Baume d'Aurobie, Montagne d'Ardèche et Ardèche des sources et volcans, et qui propose une expérience de création collective avec des scientifiques, des artistes et vous, peut-être, j'espère, autour du thème de l'eau à travers plusieurs ateliers qui ont été menés tout au long du mois de mars, et puis vous pourrez voir le résultat début mai. Et ce samedi à Valgorge, c'est le dernier atelier, c'est l'épopée 2 de création autour d'un atelier corps et voix à la salle de la Pourrette, c'est toute la journée, et l'idée c'est d'expérimenter, de créer avec sa voix, son corps, entre chant et théâtre, et tout cela guidé par des artistes plein de malice. C'est donc à la salle de la Pourrette à Valgorge toute la journée de samedi et vous trouverez toutes les infos sur la Baume en musique, cartographie sensible. Le festival Jean Ferrat aura bien lieu cet été du 19 au 21 juillet. Et oui, on se demandait, puisque les organisateurs avaient lancé un cri d'alerte au mois de janvier pour récolter des fonds et sauver le festival, il y avait 25 000 euros à trouver. Alors des gens se sont mobilisés, ont abondé la cagnotte en ligne, les collectivités territoriales ont mis aussi la main à la poche. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Baptiste Dupré et David Millier proposent demain, donc ce vendredi, à l'espace Christine Sèvres d'Entraigue, un concert de soutien pour le festival, spécialement imaginé donc pour que ce festival perdure. C'est donc vendredi à 20h30, ouverture des portes à 19h30, et les réservations sont fortement conseillées. Vous trouverez toutes les infos, tous les renseignements sur le site du festival Jean Ferrat. Et pourquoi certains créent, se relient aux autres et aux vivants, et d'autres détruisent? Question vertigineuse. Alors, sans forcément trouver de réponse définitive, vous pourrez peut-être trouver quelques éléments de réflexion demain, vendredi à 20h30, avec la première conférence d'un cycle de conférences, donc oui, organisée par les bibliothèques et les médiathèques du Pays Baume-Droby autour du thème de la relation de l'homme et de la nature. Et le titre de la conférence de demain a de quoi donner le vertige. Qu'est-ce que être humain ? Réflexion, eh oui, voilà, réflexion issue de la paléanthropologie. Et c'est Amélie Vialet, qui est paléanthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui partagera le fruit de ses propres recherches et des recherches en paléanthropologie sur le sujet. Alors, comment l'humain a pris de plus en plus de distance avec son milieu naturel jusqu'à en faire un objet extérieur à lui-même, un outil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette même distanciation a permis aussi le développement du langage. Si j'ai bien compris le bref résumé de la conférence. En tout cas, ça promet d'être passionnant, comme tout le reste du cycle, qui interroge pas mal de pans de cette relation homme-nature, et avec les meilleurs spécialistes en sciences sociales ou spécialistes scientifiques sur la question. Donc, celle de vendredi a lieu à la Grand Fonds à Joyeuse à 20h30. Et puis aussi à noter que lundi, toujours dans ce cycle de conférences autour de l'homme et de la nature, sera diffusée la première partie d'un documentaire qui en compte trois, La nature, l'art et nous, de Ben Harding. Et lundi 1er avril, donc à 19h, ce sera Nature et civilisation. C'est aussi à la salle de la Grand Fonds à Joyeuse et c'est gratuit. Eh bien, on part en musique maintenant.
سيمضي زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا أولا. سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه وعن طيش غزلاننا سندافع عن طيل فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي هذا زمان الصناعات هذا زمان المعادن من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأقوياء هنالك موتى ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك
de la musique palestinienne pour ouvrir la partie magazine de l'Onde Curieuse. Vous avez d'abord entendu le trio Joubran sur un poème de Mahmoud Darwish, l'avant-dernier discours de l'homme rouge, et puis ensuite ce même trio Joubran, Sama Sounou en instrumental. Oui, nous parlons aujourd'hui de Palestine en vue, le festival de cinéma palestinien en Auvergne-Rhône-Alpes. 5 films, 1 semaine pour dire la culture palestinienne vivante. Un festival, comme je le disais, à la croisée du politique, de la culture et de la convivialité. Et vous êtes là, Jean-Claude Perron, porte-parole du collectif France Solidarité Palestine, avec nous pour en parler. Et puis avec nous aussi, Valou, animatrice sur Fréquence 7. Merci à tous les deux d'être là. Jean-Claude, ce festival est porté par le collectif France Palestine Solidarité. Qu'est-ce que c'est que ce collectif ?
Alors, ce collectif est un collectif d'associations humanitaires, de partis politiques, de syndicats aussi, et aussi d'individus qui sont libres de tout engagement, mais qui sont intéressés par la question palestinienne. Et donc, c'est un collectif qui rassemble ces associations, ces structures, pour agir, informer, intervenir sur la question de la palestinienne.
Et vos moyens d'action ? Quels sont-ils, la plupart
des temps ? Nos moyens d'action, c'est distribuer des informations, des tracts, des flyers sur les marchés, par exemple, ce qu'on fait souvent. Depuis cet octobre, on a dû mettre les bouchées doubles et on est très, très, très présent toutes les semaines, tous les samedis matins sur la place de l'Agora. À 11h, on est là, plus ou moins nombreux. On était jusqu'à 300 personnes au début. Bon, c'est un peu retombé après, mais on est là et on dit des textes, des témoignages, des poèmes, des choses qu'on traduit, qu'on reçoit, etc. Et donc, ça permet d'informer et de maintenir l'état de veille, disons, par rapport à cette situation. Quoi.
Et il y a 9 ans, 10 ans, vous avez choisi de créer ce festival ?
Oui, il y a 9 ans maintenant. C'est un festival. Moi, je fais partie de l'équipe de fondatrice au départ, de l'équipe d'organisation au départ. On s'est retrouvés à plusieurs personnes se disant que la culture était un moyen important de prouver qu'un peuple existe. La culture, c'est ce qui crée l'épine dorsale d'un peuple, et y compris sa mémoire, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est important pour nous d'affirmer que le peuple palestinien a une culture, a une mémoire, est ancré sur une terre avec tous ses vestiges aussi archéologiques. Et donc tout ça existe. Et contre la volonté qu'il y a d'effacer tout ça, on se mobilise. Et donc on s'est retrouvés. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose au niveau culturel. On a créé une association qui s'appelle ERAP, Échange Rhône-Alpes-Palestine. C'était Rhône-Alpes à l'époque, c'est maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, pour pouvoir mettre en place des actions culturelles. Et ce qui s'est un peu imposé à nous et qui finalement dure depuis le début, c'est ce festival de cinéma qu'on a appelé Palestine en vue, qui permet à la fois de montrer la création cinématographique, mais aussi, à travers le cinéma, la création d'artistes filmés.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans la programmation, il y a à la fois des regards français ou étrangers sur la Palestine et des créations palestiniennes. Comment s'est fait le choix des films ?
Le choix des films, il est chaque année, on essaie de trouver un thème, des invités particuliers, etc. Et c'est vrai que cette année, Gaza s'imposait. Donc on a repris au niveau régional pas mal de films sur Gaza. À Aubenas, on a choisi d'en passer 2 essentiellement, donc Gaza mon amour, qui est une fiction de frères jumeaux réalisateurs palestiniens de Gaza, et un film fait par un Français, Roland Nurier, qui s'appelle Yalla Gaza, que nous avons déjà passé en février au navire, mais comme on a refusé beaucoup de monde, les gens ont demandé à ce qu'on le repasse. Effectivement, on le repasse dans le cadre de ce festival.
Mais justement, on va en entendre un extrait de la bande-annonce.
« J'ai pris mes enfants dans mes bras et je vais dire on va mourir tous ensemble ou quand on vit ensemble, on meurt ensemble.
Gaza, pour les Israéliens, c'est une petite enclave des terroristes.
شعبنا شعب مسالم حتى ما يحاول البعض أن يروجوا على أنه شعبنا يبادر بالعدوان لم يثبت في أي يوم من الأيام أن شعبنا هو بادر للعدوان
Comme juif, nier les crimes israéliens, c'est du négationnisme. J'emploie ce mot-là volontairement. C'est-à-dire qu'on sait et on n'a pas le droit de ne pas savoir.
Il y a là Gaza, donc une partie de la bande-annonce et donc du film de Roland Nurier. Et on vient d'entendre à l'instant les mots de Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix.
Qui était présent à Ouena lors de la première présentation de ce film au mois de février et qui a pu intervenir et animer un débat à la fin de la projection. Oui.
Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous de montrer que effectivement, c'est pas une question, ce n'est pas forcément une question de religion. C'est pas les juifs contre les musulmans, mais c'est vraiment une question politique.
C'est essentiel de faire la distinction entre l'État d'Israël et les juifs en général. D'ailleurs, dans l'État d'Israël, il n'y a pas la majorité des juifs qui vivent dans le monde. Il y a plus de 8 millions de juifs qui vivent dans le monde entier, en dehors de l'État d'Israël, alors qu'il y a un peu plus de 7 millions de juifs qui vivent en Israël. Donc cet État n'est pas représentatif de tous les juifs, alors qu'il voudrait l'être. Et il invite, bien sûr, tous les juifs, ils ont le droit de retour absolu. C'est le juif qui veut rentrer en Israël, il est invité, les bras ouverts, effectivement. Et Israël s'emploie à faire venir les juifs en Israël pour faire en sorte que cet État juif soit le plus fort possible, le plus nombreux possible, peuplé par des juifs. Et donc, il existe quand même, dans le monde entier, mais en Israël aussi, des juifs anticolonialistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cet État qui prend la terre, qui détruit la culture et le peuple palestinien, qui lui mène une guerre coloniale sans fin jusqu'à présent. Et donc, ces juifs-là, on travaille avec eux, évidemment, nous, puisque c'est un petit peu, ils ont les mêmes impressions que nous, et les mêmes attitudes, et les mêmes convictions profondes qu'il y a une justice flagrante, et qu'il faut se battre contre cette injustice.
Valou, tu veux ajouter ? Ce que tu décris là, du coup, c'est s'opposer à la politique israélienne, c'est donc être anti-sioniste. Et donc, il y a, comme tu le dis, plein de personnes qui sont anti-sionistes de toute confession, juives également, avec ce mouvement aux États-Unis là, qui s'est fait montrer très fort depuis le 7 octobre, qui dit « not in our names », pas au nom des juifs, en tout cas. Vous ne pouvez pas massacrer impunément en disant ensuite que c'est une question religieuse. Et tu as utilisé l'expression « rentrer ». En Israël, c'est parce que ça s'appelle le droit au retour, ce qui est complètement ironique, puisque quand on sait que quand on est réfugié dans le monde, il y a quelque chose qui nous permettra un jour, normalement, dans la loi internationale, de rentrer chez nous, c'est le droit au retour. C'est donc ce que réclament les Palestiniens depuis la Nakba, depuis 1948. C'est le droit, un jour, de rentrer chez eux sur leur terre. Donc c'est très ironique que la loi israélienne qui dise aux Juifs du monde entier, qui sont en réalité peut-être Polonais, États-Unis, Français, qui ont leur vie ailleurs, et qui leur disent rentrer, alors qu'ils n'ont jamais habité en Israël, ne sont peut-être même jamais venus et qui n'habitent pas là, et leur disent rentrer. C'est donc toujours avec cette idée qu'on entretient qu'un jour le peuple juif défini comme tel y aurait été, et donc il s'agirait d'un retour. Et là, il s'agit bel et bien de questions culturelles, parce que la politique s'empare du culturel, et mais les religieux bien sûr, pour faire de l'effacement. Et c'est tout à fait pertinent à ce moment-là de s'emparer de la culture palestinienne pour revenir dire, mais ah bon, vous étiez là il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que cette culture palestinienne fait là alors? Ils viennent d'où tous ces Palestiniens si vous étiez là il y a 10 minutes? Et voilà, et tout ça se mêle. Et c'est vrai que sur le territoire israélien lui-même, hein, enfin palestinien moi je dis, mais il y a plein de personnes qui sont peut-être nées israéliennes et qui sont juives, mais qui se positionnent aussi à questionner tout ça et à être antisionistes et à dire « mais ça a l'air plus complexe que ça, on dirait bien qu'il y a une culture locale ». C'est très intéressant à regarder de façon complexe.
Oui, On précise bien que les Palestiniens n'ont absolument pas le droit au retour, que ce soit dans les territoires occupés ou en Israël, dans les pays où ils sont, dans les villages où ils sont nés. Voilà, oui. Donc c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire, effectivement. Et nous, donc, Pierre Stamboul, qui est un ami de longue date, on travaille avec lui, on échange régulièrement, et avec toute l'Union juive française pour la paix, qui a des positions tout à fait justes sur la question. On travaille beaucoup, quoi. C'est des interlocuteurs privilégiés pour mener ce combat, quoi.
Donc il ne sera pas là vendredi 5 avril, non. Il l'était au mois de février, mais vous pouvez en tout cas revoir ce documentaire Yalla Gaza, sous-titré pour démystifier les préjugés, donc un film de Roland Nurier. Donc ce sera le 5 avril, je n'ai pas l'heure, mais
18h30.
Merci beaucoup. À 18h30. On parlait justement, enfin on continue de parler de la culture. Et qui est important de montrer toute cette complexité, toute cette richesse de la culture palestinienne, et notamment la culture musicale.
اهوش الوضع كله تمام مستمتعين بالمستنقع وسع وبالتحديد مكان متشبع مستمع لكن عندي مشكلة نسمع كاره الجميع بدون استثناء باحتفظ التوازن خارج نطاق الإناء مش ابو نداء مش ابو البراء انا الايقاع بالاجماع صخب صوتي اعلى من شارع كم القميص بيطفي كثير بعبيس على قدر المستطاع فك ذا بوليس يا
بدنا نورجي هذا الشيء للعالم واحنا بنقدر نوصل للسلام صدقني الا ما حد يسمع لك
شكرا. Des notes de Oud, mais aussi on a entendu du rap. C'est Borderline, le documentaire de Benoît Bizarre et Antoine Bonzon, qui sera diffusé le 3 avril à 18h30, toujours au Navire. Un regard, donc là, un regard de deux Français sur la musique palestinienne.
Oui, ce sont deux réalisateurs qui s'intéressent à l'anthropologie aussi et à la sociologie dans leur cinéma. Et donc, ils ont l'occasion de rencontrer cette culture et ils sont allés voir quelle musique en Palestine, quoi. Et ils ont rencontré effectivement toutes sortes de musiques, puisque les Palestiniens sont à la fois soucieux de conserver leur tradition et leur musique traditionnelle, mais aussi ils sont ouverts au monde et il y a des écoles de musique classique où les élèves apprennent les instruments de musique classique qui créent des orchestres formidables et donc la musique classique occidentale est merveilleusement interprétée par des orchestres palestiniens et des jeunes, beaucoup de jeunes qui se sont investis là-dedans. Et puis il y a aussi toutes les musiques contemporaines, les DJ, le rap, le hip-hop, etc. Enfin, même le rock punk, etc. Enfin, ils s'essayent, ils sont ouverts au monde entier. Et dans le film, on voit toutes ces formes de musique à l'œuvre, aussi bien un vieux monsieur qui joue merveilleusement de la flûte traditionnelle que des jeunes qui sont sur scène comme dans des boîtes de nuit en Occident. Il n'y a aucun souci avec ça.
Musique, un autre pan finalement de la culture, ce sont les questions aussi liées à l'environnement. Un souci qui est également celui de la Palestine, puisque jeudi 4, vous projetez le film Cueilleur-Cueilleuse de Jumana Mana, qui est une plasticienne.
Oui, c'est une artiste plasticienne. Il y a beaucoup d'artistes plasticiens en Palestine, vraiment beaucoup qui courent les écoles d'art du monde entier et qui reviennent régulièrement là-bas, qui se partagent leur temps entre l'Occident ou même des fois l'Orient et leur pays. et qui sont multi-arts, disons, et qui souvent réalisent des films. Et Joumane Amana fait partie de ces réalisatrices qui ont tous bagage culturel énorme et qui donc font un cinéma, disons, un petit peu expérimental, mais aussi très, très lié à forme d'image qu'elle a pu développer dans ses projets artistiques aussi, quoi. Et elle s'attache justement à montrer les rapports qu'il y a entre le corps humain et la nature. Souvent, elle s'attache à ça. Et là, donc, on est dans une situation où l'État d'Israël, le gouvernement israélien, utilise des lois soi-disant de protection de la nature pour empêcher les Palestiniens finalement d'aller ramasser les plantes qu'ils peuvent cueillir, comme nous on cueille des pissenlits, comme nous on cueille des petites plantes pour manger.
Les asperges sauvages.
Voilà, et voilà par exemple les asperges sauvages. Et donc elle met en scène cette interdiction, enfin interdiction, oui, puisqu'ils payent des lourdes amendes quand ils sont pris à le faire, quoi. Donc il y a tout un jeu de cache-cache entre les Palestiniens qui vont chercher leurs petites plantes à manger, les petits artichauts sauvages par exemple, et puis qui se retrouvent face à face avec des contrôleurs qui leur infligent des amendes, etc.
Donc ça, ce sera jeudi à 18h30, cueilleurs et cueilleuses. Et puis dimanche c'est un zoom sur Ayam Abbas, qui est une grande actrice palestinienne, avec deux films. Un film qui est sorti en 2020, Gaza, mon amour, pour montrer aussi, comme alors le disait, je pense que c'était Roland Nurlier, Gaza, ben, en fait, c'est filmer une vie normale dans un pays qui ne l'est pas, un peuple normal dans un pays, voilà, qui lui ne l'est pas. Et donc c'est de... un film d'amour, on va y revenir. Et puis, il y aura le dernier film donc de la fille de Ayam Abbas, dans lequel elle joue, Bye Bye Tibériade. Alors, Gaza, mon amour, d'abord, un mot de ce film.
C'est un film... Peut-être qu'avant, je voudrais parler de... Puisqu'on parlait de vie quotidienne à Gaza, je voudrais parler du co-réalisateur du film Yalla Gaza. Parce que Roland Nurlier, quand il a décidé de parler de Gaza, c'est très difficile, même avant le 7 octobre, de rentrer à Gaza. Donc il a confié à un réalisateur de Gaza, qui s'appelle Yad Alastan, de faire les images et de faire de rapporter des éléments pour le film qui lui envoyait ensuite par les moyens numériques, quoi. Et donc ce réalisateur, je voudrais parler de lui parce que il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Gaza Stories et qui sont des séries de petits portraits entre 3 et 5 minutes qui montrent la vie quotidienne justement à Gaza, de tous les aspects de la vie à Gaza, par les métiers, par les activités culturelles, par toutes les activités. Et regardez Gaza Story sur YouTube, vous verrez, c'est formidable, parce qu'effectivement, on rencontre là des gens tout à fait comme nous, ordinaires, qui vivent leur vie, qui vivent leur passion, qui vivent tout ce qu'on peut vivre dans un temps normal. Bien que Gaza, ça n'a jamais été... normal, mais ils ont toujours essayé de faire en sorte que ce soit normal. Voilà. Donc, avant de parler, voilà, je tenais à parler de la salle, d'autant plus que, avec des accords au niveau, c'est un francophone, donc avec des accords, il a beaucoup travaillé avec l'Institut culturel français de Gaza, avec des accords qu'on a pu avoir avec l'Institut culturel français, donc le ministère des Affaires étrangères français, il a réussi à sortir, et il est en France maintenant, et il sera d'ailleurs à la même heure à Annonay pour parler après le film Yalla Gaza, qu'il a co-réalisé avec Roland Nurlier.
Voilà. D'accord. Donc ça, ce sera bon. Peut-être pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui sont un petit peu plus dans le Nord, oui. Ce sera donc en même temps que Gaza, mon amour
ou... Non, ce sera en même temps qu'il y a la Gaza le vendredi.
Le vendredi, ouais, d'accord.
Vendredi. Ce sera plutôt à 20h ou 20h30 le soir. Ouais. Okay. Voilà, à Annonay. Par contre, pour revenir à Gaza, mon amour, donc ce sont deux réalisateurs jumeaux. Ils se sont fait appeler, c'est pas leur vrai nom, mais Nasser est... Tarzan et Arab Nasser, voilà, et qui sont inséparables et qui font du cinéma. Et c'est aussi des artistes plasticiens au départ. Et ils ont fait des écoles d'art à Gaza. Et
très beau film. Je veux dire, Gaza mon amour, il y a une image qui est magnifique et puis voilà, une poésie du propos. Ouais.
Et donc ils avaient déjà réalisé un film magnifique que je connais bien qui s'appelait un terme de coiffure, j'ai un trou. Ouais,
mais c'est pas les dégradés.
Dégradés. Et qui met déjà en scène Yam Abbas, l'actrice palestinienne, et qui était un huis clos dans un salon de coiffure, avec déjà une préoccupation par rapport au Hamas qui mettait un peu le doute dans tout ça, quoi. Et c'était un huis clos merveilleusement filmé, avec un suspense, voilà. Et ce qui prouve que les réalisateurs palestiniens sont en train de s'emparer du cinéma, après avoir fait beaucoup de cinéma militant, de cinéma documentaire, qui a son grand intérêt aussi, bien sûr, hein, ils continuent à en faire, mais qui maintenant aussi investissent tout le champ cinématographique, tous les genres de fiction, les thrillers, enfin, c'est en train de fleurir absolument, et on a dans tous les festivals du monde maintenant, on voit régulièrement beaucoup de ces films qui sortent, quoi.
Et aussi avec un peu avec de l'humour, enfin, c'est ce qui est dans Gaza mon amour, c'est ça qu'il y a aussi, et on parlait hors micro tout à l'heure ensemble justement de l'importance de l'humour dans la culture palestinienne, et Valou, tu nous parlais d'un film ou d'un livre.
Il y a les deux. Je crois qu'il y a un film qui réunit plein de blagues palestiniennes et il y a aussi un livre aux éditions Cafard qui s'appelle Blagues de Palestine, qui n'est pas un grand livre mais qui a le mérite d'exister et de montrer ce pan-là de la culture qui dit, voilà, on peut vivre une situation coercitive très difficile sous colonisation, mais en même temps, il faut savoir en rire et puis de toute façon, quitte à en être là. Et il y a des blagues sur un sacré paquet de sujets, notamment la religion, sur les partis politiques, bien sûr, sur la colonisation, évidemment, sur l'enfermement. Et c'est... voilà, c'est une vraie partie de la culture intéressante aussi, quoi.
Et on va y revenir, on termine sur le festival, mais ça c'est un sujet qui te tient à cœur et qui est très important et qui imprègne toute la vie des Palestiniens, c'est l'emprisonnement. Et on en parlera juste après le festival. Donc Gaza mon amour, c'est à 17h. Et puis avant le dernier film, donc Bye Bye Tibériade, il y aura d'ailleurs un petit buffet, parce que c'est ça aussi la convivialité.
Voilà, c'est ça, oui. On a pris l'habitude de faire ce dimanche avec deux films et un buffet entre deux, parce que ça permet de se retrouver aussi entre les deux films, de passer un grand moment ensemble déjà, et de se retrouver après les deux films, en sachant qu'on aura aussi un intervenant qui animera les débats après chaque film.
Yves González Quirano.
Quirano, oui, c'est ça. Et qui sera là, qui est un universitaire spécialiste des questions arabes, qui parle lui-même arabe, et spécialiste des questions de culture et de politique arabe contemporaine, donc il est très au courant de ça, et y compris de la culture palestinienne, qui l'intéresse beaucoup. Et donc, effectivement, ça fait des grands moments passés ensemble. On a un buffet, des gens de bonne volonté, des femmes de bonne volonté nous proposent des assiettes où on peut grignoter comme ça entre les deux films et puis continuer à discuter, à échanger. Voilà.
Avant le dernier film, donc Bye Bye Tibériade, le film de Lina Swalem, où elle met en scène Ayam Abbas et où elle essaie de creuser un petit peu, si j'ai bien compris, la filiation de mère en fille, de ce qui s'est passé justement depuis ce départ de Tibériade après 48.
Oui, c'est-à-dire que Lina Swalem a déjà réalisé un premier film documentaire long sur sa famille paternelle s'appelait Leur Algérie, puisqu'elle parlait de ses grands-parents paternels, qui est un très très beau film aussi. Et là, elle continue cette exploration de sa famille en parlant de la famille de sa mère, donc la grande actrice Yam Abbas, qui est une famille de Tibériade, effectivement, et donc qui est située en Galilée, donc en territoire israélien. Hein. Donc ce sont des Palestiniens d'Israël. Cette famille, donc, il y a quatre générations qui sont là, hein, et qui seront mises en scène et évoquent tout cet aspect-là de la famille, à travers les femmes. Hein, c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la mère et la fille qui sont là.
Et c'est en avant-première ou alors c'est juste à la sortie du film, hein, il me semble que...
Le film vient de sortir, oui, il est sorti en salle. Oui.
Bye bye Tibériade. Merci de nous avoir présenté ce festival. Juste un mot aussi, c'est possible, ce festival il est porté par le collectif, donc il y a des partenaires, vous êtes partenaires, il y a le MRAP, culturedepalestine.org, qui est un site justement que vous animez au sujet de de toute la culture. Et puis, bien sûr, le navire qui propose ces salles. On parlait de la vie quotidienne. Effectivement, un pan de la vie quotidienne qui imprègne toute la société palestinienne, c'est l'emprisonnement.
Oui, et ça me dit bien d'intervenir là-dessus. Juste pour terminer sur l'histoire du cinéma, moi, je me dis que s'il y a des auditrices, auditeurs qui n'ont jamais été voir un film palestinien en se disant que c'est quelque chose de militant, on va encore se prendre la tête, etc., je voulais appuyer ce que tu disais tout à l'heure, que non, c'est un cinéma foisonnant, assez impressionnant. Je pense à des films qui ressemblent au courant de Jacques Tati, d'Elia Souleymane, comme Absolument. Le temps qu'il reste, qui est plein à la fois d'humour et de description d'une vie qu'on a du mal à imaginer, à des films sur l'homosexualité comme Oriented, qui sont juste exceptionnel, les citronniers qui nous permettent de voir encore cette grande actrice que tu as citée, A To Shoot an Elephant, qui est un film très 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 dur, c'est un documentaire qui a été tourné à Gaza pendant l'opération Plomb Durci. Waouh, c'est quelque chose de très difficile, mais qui permet de prendre la réalité d'une guerre dans la tronche. Et voilà, et il y a de tout ça. Et c'est juste assez incroyable d'avoir cette opportunité de voir une semaine de film comme ça. Je pense que c'est une bonne chose de se dire, voilà, j'y vais une fois, un soir. Ça vous donnera envie d'y retourner une autre année, c'est sûr, quoi. Voilà. Ça, c'est ma petite promotion à moi. Et voilà, ouais, la situation actuelle, en fait, on a tendance à parler de ce qui se passe depuis le 7 octobre. On a du mal, je pense, à imaginer qu'avant... le 7 octobre 2023, la situation en Palestine était déjà désespérée et complètement insupportable. Par contre, il n'y avait pas eu ce massacre de masse pour les Israéliens. Ça, c'est sûr que ça fait une différence notable. Et puis, l'acharnement qui a lieu depuis le 7 octobre est démesuré et le nombre de morts est incalculable. Mais ce qui se passait déjà avant, c'était le côté coercitif, répression. Et pour ça, la prison, c'est une étape... c'est difficile à dire comme ça, mais presque obligatoire dans la vie des Palestiniens, soit parce qu'ils sont eux-mêmes enfermés à un moment ou à un autre, soit parce qu'un de leurs proches... Alors, qu'est-ce que ça veut dire de naître en prison quand c'est son père, sa mère qui était dans sa petite enfance, un frère, une sœur, et voilà. Et c'est malheureusement partie prenante du parcours de vie de presque tout le monde. Et du coup, ça prend une place gigantesque dans la société, les prisonniers. Sachant qu'on ne parle pas de prisonniers de droit commun. Hein.
C'est ça.
C'est une différence très, très importante.
Alors, ouais, justement, quelques chiffres. 40% des hommes palestiniens de 1967 à aujourd'hui sont passés par la prison à un moment donné.
Chaque famille a eu des prisonniers dans sa famille. Donc tout le monde connaît la situation, effectivement.
Et bien, effectivement, distinguer qui est en prison, parce qu'il y a les prisonniers dits les prisonniers administratifs.
Ah non, oui, alors il y a surtout en France, nous, ce qu'on connaît, c'est essentiellement les gens qui sont des prisonniers de droit commun, même si en réalité, il y a aussi une autre catégorie de prisonniers qui sont les gens qui n'ont pas de papier, qui sont dans les CRA. Mais nous, les gens qu'on connaît, c'est les gens qui sont enfermés parce qu'ils ont volé quelque chose, qu'ils ont créé un accident, qu'ils ont fait une bagarre, qu'ils ont agressé quelqu'un. Là, ce ne sont pas ça. Ces prisons-là existent en Palestine. C'est l'autorité palestinienne qui les gère. Et ça, c'est les prisonniers de droit commun. Là, on parle de prisonniers politiques qui donc sont soumis à des lois militaires, des tribunaux militaires, avec un régime d'exception que tu as cité, qui est la détention administrative, qui est contraire au droit international, puisqu'elle est officiellement dans la loi militaire israélienne de 6 mois, reconductible à l'infini, sans procès. Et je peux citer Sama Jaber, que je cite souvent dans l'émission Billets d'Afrique, qui est une psychanalyste psychiatre palestinienne, et qui dit... Certains, à propos d'un moyen de lutte très, très utilisé, sur lequel on peut revenir, qui est la grève de la faim. on ne prend pas la mesure depuis nous, depuis l'Occident, de ce que c'est. Mais c'est un moyen de lutte extrêmement utilisé depuis des décennies dans les prisons palestiniennes. Puisque les gens sont enfermés, qu'ils ont très peu de leviers, eh ben, les gens se mettent en grève de la faim. Il y a des grèves de la faim où il y a 1500 personnes d'un coup qui ont arrêté de manger de façon indéfinie, par exemple en 2017. Et Sama Jaber dit « Certains peuvent considérer le choix de grève de la faim comme une forme de radicalisme psychologique ou une tentative de suicide, mais ceux-là ne sont pas conscients du niveau d'oppression psychologique et des tentatives d'assujettissement auxquelles les prisonniers palestiniens sont soumis, en particulier le prisonnier administratif, qui ne connaît pas de raison de sa captivité ou de fin à sa captivité. Ceux qui ne comprennent pas le choix de la grève de la faim ne voient pas la forme de résistance, une dernière tentative pour lutter contre le geôlier. » Et clairement, dans l'arsenal répressif israélien, enfermer les corps, c'est une manière de contrôler la population. C'est à un moment, c'est mater quelqu'un. Très régulièrement, quand quelqu'un est enfermé avec une peine, la maison de sa famille est détruite. Donc c'est tout un arsenal qui se met en place. Et les Palestiniens, Palestiniennes ont pris finalement une sorte de contre-pied depuis la première intifada, qui sont les premières grandes arrestations de masse, en faisant de l'éducation politique en prison. Et donc, quand on dit que c'est partie prenante de la vie des Palestiniens, c'est que c'est aussi un moment de formation politique. Voilà, c'est quelque chose, encore une fois, qui est difficile à décrire là au micro, et puis le temps presse, mais c'est un moment de la vie des Palestiniens qui est très dur, qui est quasiment inévitable, mais qui est très, très fondateur dans des rencontres, dans un parcours politique aussi, de savoir, voilà, de faire l'expérience, de savoir ce que c'est que la prison. Voilà.
Merci d'avoir de nous avoir éclairé là-dessus, parce qu'effectivement, oui, on a dit au départ, il y a des hommes, bien sûr, mais il y a aussi des femmes et des mineurs et des enfants. Il y en a énormément, là, tu disais, en 2023, ça a explosé 880 enfants.
C'est aussi contraire au droit international.
Bien sûr. La Convention de Genève en particulier. Oui.
Mais voilà, là, depuis lundi, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui condamne, mais je lisais qu'il y avait à peu près 1500 résolutions de l'ONU à destination d'Israël. Et
enfin, quasiment aucune n'est appliquée.
Voilà.
Et donc, c'est ce qui crée une impunité pour l'État d'Israël. Et donc, il peut tout se permettre, il croit pouvoir tout se permettre avec cette situation.
On espère que ça ouvrira quand même une porte. Espérons. En tout cas, allez voir cette Palestine vivante toute cette semaine, enfin toute la semaine prochaine, du 3 au 7 avril, au cinéma Le Navire, avec ce festival Palestine en vue. Merci à tous les deux d'avoir été au micro de L'Onde Curieuse.
Merci de votre invitation.
Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7 à 15h, c'est le Telex, vos messages, vos annonces au 04 75 93 30 25. À 17h, c'est la rediffusion de cette Onde Curieuse. À 18h, c'est la collective, les questions féministes au pouvoir. À 19h, Éclectrique. Et à 20h, la playlist de mon pote avec Valou. Merci, ciao.